Good morning.
Bonjour. Pendant les deux journées à venir, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN vont se réunir pour évoquer certaines des questions les plus importantes en matière de sécurité. Et nous allons également débattre de la manière dont nous allons réagir à ces questions. Tout d'abord, les ministres vont parler de la coopération entre l'OTAN et l'UE, car une plus forte coopération entre l'OTAN et l'Union européenne reste l'une des meilleures manières de renforcer notre réaction dans le cadre de ces questions sécuritaires très importantes. L'ordre pacifique est actuellement remis en question de nombreuses manières et l'OTAN et l'UE doivent travailler en étroite coopération plus que jamais pour faire face à cela. Lors des deux dernières années, nous avons pu créer une nouvelle dynamique dans notre partenariat et nous avons acquis une nouvelle compréhension commune de l'importance de notre coopération, et ce, à tous les niveaux. Des pourparlers interservices, à mes réunions régulières avec les présidents Tusk et Juncker, avec la haute représentante Federica Mogherini, et par l'intermédiaire de notre participation aux réunions ministérielles et sommets de chacun. Nous avons progressé étape par étape, de manière pratique, ce qui a pu bénéficier à tous nos pays. Et cette semaine, j'espère pouvoir franchir encore une étape importante dans notre coopération. Nous allons en effet avaliser un paquet de plus de 40 mesures pour mettre en œuvre la déclaration conjointe que j'ai signée avec les présidents Tusk et Juncker en juillet à Varsovie. Cela pour but d'approfondir notre coopération dans plusieurs domaines qui sont au nombre de 7. La lutte contre la guerre hybride, les cybermenaces, le travail commun dans les opérations maritimes et un travail également en coopération en matière de développement capacitaire. La coopération avec l'Union européenne, c'est également très important parce que nous pouvons ainsi projeter la stabilité au-delà de nos frontières. Demain, nous allons parler des progrès effectués dans la redynamisation de notre capacité dans notre voisinage à l'est et au sud. Nous allons évoquer notre soutien à la coalition qui lutte contre l'État islamique. Nous allons parler de la formation des officiers irakiens et nous allons parler de la nouvelle opération Sea Guardian en Méditerranée. L'OTAN a acquis de nombreuses années d'expérience en matière de projection de la stabilité dans les Balkans occidentaux et en Afghanistan. Mercredi, nous allons rencontrer Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Afghanistan, Monsieur Rabbani, pour réaffirmer notre engagement envers le soutien à l'Afghanistan afin que ce pays sécurise son territoire. Et nous allons passer en revue les réformes de l'Afghanistan qui sont liées au soutien international continu. La présence de l'OTAN en Afghanistan, c'est le témoignage de notre engagement à long terme envers la lutte contre le terrorisme. Cela aide à stabiliser la région et cela aide à prévenir le flux des migrants et des réfugiés. Mercredi, il y aura également une réunion de la commission OTAN-Ukraine. La situation sécuritaire dans l'est de l'Ukraine reste extrêmement grave. Tous les jours, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Parfois, des centaines, des milliers de fois. Il y a des explosions qui émanent d'équipements qui sont interdits au titre des accords de Minsk. En effet, des armements lourds sont toujours sur place et n'ont pas été retirés. Il n'y a que 13% de ces équipements qui sont inscrits auprès de l'OSCE et qui ne peuvent faire l'objet d'une surveillance. Alors que l'Ukraine continue à faire face aux actions agressives de la Russie, l'OTAN va soutenir l'Ukraine dans le cadre d'un fort soutien politique et pratique. Les réunions des ministres des Affaires étrangères cette semaine représenteront un fondement très important pour notre sommet qui aura lieu ici à Bruxelles l'année prochaine. Je suis impatient de souhaiter la bienvenue au nouveau président américain, M. Donald Trump, lors de ce sommet, et de travailler avec lui ainsi qu'avec son équipe nationale de la sécurité, alors que l'OTAN va continuer à s'adapter aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et sur ces quelques remarques, je suis prêt à répondre à vos questions. Question hors micro. Question. Bonjour, Monsieur le Secrétaire général.
Vous avez parlé de coopération entre l'OTAN et l'Union européenne et vous avez parlé de changements de scénario qui se sont produits au cours de ces deux dernières années. Aujourd'hui, il y a de grands changements qui se produisent. Il y a le Premier ministre, M. Renzi, qui vient de poser sa démission après que le référendum ait eu lieu ce week-end sur la réforme constitutionnelle en Italie. Quelles sont les conséquences de cela? Et pensez-vous que l'Italie pourra affronter positivement un changement de posture éventuel, puisque l'opposition italienne aura peut-être une approche différente et les médias sociaux russes ont déjà indiqué que M. Poutine avait félicité l'Italie pour ce non au référendum. Le résultat du référendum en Italie, réponse du secrétaire général, c'est la décision tout d'abord du peuple italien. L'OTAN, c'est une alliance de 28 démocraties et le référendum en Italie s'inscrit dans un processus entièrement démocratique. Le résultat du dit référendum ne changera d'aucune manière la position de l'Italie par rapport à l'OTAN. L'OTAN va demeurer une alliance avec l'Italie, qui est un pays très engagé envers notre organisation. Et l'Italie, une fois de plus, joue un rôle primordial, et ce, de différentes manières au sein de l'OTAN. Et je suis impatient de continuer à travailler de concert avec l'Italie dans le futur. Et j'ai apprécié de pouvoir travailler avec M. le Premier ministre, M. Renzi. Et je crois que c'était une expérience très positive. Nous avons pu affronter les défis auxquels fait face l'OTAN, dans le sud notamment. Nous avons pu gérer la question de la menace qui émane de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et la manière dont l'OTAN peut gérer sa réaction par rapport à la Russie. Mais c'est une décision de la part du peuple italien. Ça fait partie du processus démocratique et, encore une fois, cela ne va pas changer la position de l'Italie par rapport à l'OTAN. Europa Press. Question. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. A-t-on davantage d'informations sur la période à laquelle aura lieu le sommet auquel participera le président élu, Monsieur Trump? Est-ce que ce sera en mars ou est-ce que ce sera un peu plus tard? Puis, autre question. Le sommet aura-t-il lieu à Bruxelles ou au siège de l'OTAN? Réponse du secrétaire général. Lors de notre sommet en juillet dernier à Varsovie, cette année, nous avons décidé d'organiser un sommet en 2017. Puis les alliés, les pays, débattent actuellement de la date à laquelle aura lieu ce sommet et des sujets que nous évoquerons lors de ce dernier. Donc il est un peu trop tôt pour donner des informations en ce qui concerne la date précise à laquelle sera organisé le sommet, puis en ce qui concerne les thèmes qui seront abordés lors du sommet, nous aurons davantage d'informations peut-être un peu plus tard. Mais ce qui est important, c'est que nous allons organiser un sommet, et surtout à une époque où il y a beaucoup d'incertitudes, d'incertitudes en matière de sécurité, je pense qu'il est essentiel d'avoir un sommet où nous pouvons réunir tous les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN, qui viennent d'Europe, qui viennent d'Amérique du Nord également. Ceci pour montrer la solidité du lien transatlantique et de notre alliance. Et je suis impatient de souhaiter une fois de plus la bienvenue à M. Donald Trump, ici à Bruxelles, et d'évoquer avec lui et les autres dirigeants la manière dont l'OTAN peut réagir et réagira à ce nouvel environnement sécuritaire et aux défis qui y sont inhérents.
Bonjour, je viens du Monténégro. Pensez-vous que le nouveau gouvernement du Monténégro va rester sur ce chemin vers l'adhésion à l'OTAN? D'autre part, pensez-vous que le Monténégro deviendra membre de l'Alliance au printemps 2017? Réponse. Je pars du principe que le nouveau gouvernement du Monténégro va maintenir le cap. Et J'ai rencontré le nouveau Premier ministre dans un poste qu'il occupait précédemment et je suis persuadé qu'il continuera de veiller à ce que le Monténégro maintienne le cap et que le Monténégro continue d'être engagé en vue d'une adhésion à l'OTAN. Par ailleurs, je ne suis pas en mesure de vous dire précisément quand cette adhésion pourrait intervenir, quand le Monténégro pourrait devenir un membre à part entière. Vous le savez, lors de notre dernière réunion des ministres des Affaires étrangères, nous avons signé le protocole d'adhésion. Entre-temps, on a démarré le processus de ratification de ce protocole d'accession dans les différents parlements des 28 membres de l'Alliance. Alors jusqu'à présent, 14 membres ont ratifié ce protocole d'accession et nous pensons que d'autres alliés vont faire la même chose dans un avenir proche. Et je pense que tous les alliés finiront par ratifier ce protocole relativement rapidement. Mais par rapport à ces décisions qui relèvent de différents parlements, je ne suis pas en mesure de vous donner de date précise. Monsieur le secrétaire général, s'agissant des forces de sécurité afghanes, la saison écoulée a été une des plus meurtrières. Et aujourd'hui, les talibans sont en train de prendre le contrôle de grandes parties du territoire. Et on a pu voir ce qu'il en est de l'influence et du poids des talibans. Alors, si l'OTAN ne va pas faire évoluer sa position et son attitude en Afghanistan, comment est-ce que vous voyez les choses pour l'avenir et au cours des prochains mois? Réponse. Je tiens tout d'abord à féliciter les forces afghanes pour le courage et le professionnalisme dont ces forces ont fait montre. Nous devons garder en tête que depuis 2015, ces forces assument toute la responsabilité de la sécurité du pays. Nous avons, pour notre part, cessé notre mission de combat. Nous sommes là en soutien, nous apportons une assistance, un entraînement, mais c'est eux qui sont en première ligne. Et en l'occurrence, c'est tout à fait remarquable de voir qu'ensemble, on a pu mettre sur pied des forces de sécurité afghanes à hauteur d'environ 350 000 personnes. Il est remarquable que ces forces aient réussi à assumer cette responsabilité. Je crois qu'en l'occurrence, il s'agit d'une des grandes réussites liées à la présence de l'OTAN en Afghanistan. Nous avons été en mesure d'aider des forces locales qui peuvent assumer cette responsabilité, nous permettant d'interrompre notre opération de combat. Mais nous n'avons jamais pensé que ceci serait simple. Nous avons toujours su que cette tâche serait très exigeante, que les violences allaient se poursuivre et qu'on allait continuer à être confronté à des attaques des talibans et de la part de groupes terroristes. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à soutenir les forces de sécurité afghanes. Cela va passer par l'entraînement, l'assistance et le conseil, et cela va également passer par un financement. Il y a quelques semaines de cela, j'ai participé à la conférence de Bruxelles. Et à cette conférence, la communauté internationale a décidé de poursuivre le financement de l'Afghanistan, que ce soit en termes d'aide au développement, mais également pour soutenir les forces armées et les forces de police de ce pays. Et l'OTAN, à son sommet à Varsovie, a décidé qu'on allait poursuivre notre présence. On conserve environ 13 000 hommes et femmes en Afghanistan. Et on continue, par ailleurs, de financer les forces de sécurité nationale afghanes. Donc nous savons que la situation est délicate et difficile en Afghanistan. Par ailleurs, nous témoignons du courage et des efforts entrepris par ces forces. Question. Monsieur le secrétaire général. S'agissant du nouveau président, M. Trump, il a dit de par le passé que l'Afghanistan était une catastrophe totale et il a demandé à ce que l'on retire les troupes du pays. Alors, il est possible qu'il ait changé d'avis. Il est possible, par ailleurs, qu'il n'ait pas changé d'avis. Alors, la question que je vous pose, c'est de savoir en quoi ce type de déclaration a un impact s'agissant de l'engagement de l'OTAN auprès de l'Afghanistan pendant la présidence de M. Trump à partir de l'an prochain. Réponse. Eh bien, comme je l'ai indiqué, il va y avoir un sommet l'an prochain ici à Bruxelles. Et je me réjouis de rencontrer le nouveau président, M. Trump. Je serai très heureux de parler de tout un ensemble de dossiers et je pense que nous aurons effectivement la possibilité de parler de l'Afghanistan puisqu'il s'agit de la principale opération de l'OTAN. Nous y sommes depuis bon nombre d'années. Donc c'est forcément quelque chose qui sera abordé dans le cadre de ce prochain sommet avec le nouveau président, M. Trump. Alors, nous avons vu les rapports faisant état de l'appel téléphonique ayant eu lieu entre le nouveau président, M. Trump, et le président, M. Ghani. C'était il y a quelques jours de cela. Et d'après ces rapports, le nouveau président, M. Trump, a fait part de son engagement vis-à-vis de l'Afghanistan et vis-à-vis d'un soutien maintenu auprès de ce pays. Donc, pour ma part, j'ai confiance et je pense que le nouveau gouvernement continuera de soutenir l'Afghanistan et continuera de participer aux efforts de l'OTAN pour fournir un soutien pratique et politique pour entraîner, assister et aider les forces afghanes. Question. Nick Fiorenza. S'agissant du calendrier pour le sommet, l'Union européenne souhaite s'entretenir avec M. Trump le plus rapidement possible. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un sommet de l'Union européenne avec M. Trump avant que l'OTAN ait son propre sommet? Et ne serait-il pas préférable d'organiser, d'envisager éventuellement une réunion qui ait lieu pratiquement en même temps, ou en tout cas que les deux réunions aient lieu l'une après l'autre, ce ne serait pas préférable par rapport aux liens transatlantiques? Et est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec les ministres? Réponse. Eh bien, le résultat principal de la ministérielle qui démarre cette semaine, ça va être ce paquet pour la mise en œuvre d'une meilleure coopération, d'une coopération renforcée entre l'OTAN et l'Union européenne, parce que nous considérons que cette coopération est essentielle pour faire face à bon nombre de défis. Alors, je suis persuadé que nous arriverons à harmoniser, si je puis dire, la tenue des sommets avec les États-Unis pour l'Union européenne et pour l'OTAN. Alors ensuite, précisément, comment cela va se faire, est-ce que ça va avoir lieu directement l'un après l'autre ou est-ce qu'on va avoir d'autres modalités? C'est encore trop tôt pour le savoir. Donc, je ne m'inquiète pas par rapport à ces questions de calendrier. Nous allons trouver des solutions. Ainsi, il nous faut attendre. En effet, il faut se souvenir qu'il a été élu, mais il n'occupe pas encore ses nouvelles fonctions. Ce n'est que le 20 janvier que ce nouveau gouvernement sera aux affaires, si je puis dire. Donc, nous allons poursuivre nos contacts avec l'équipe de transition, mais les décisions définitives devront attendre que ce nouveau gouvernement soit officiellement en place. Question. Irina Sommer d'Ukraine. Monsieur le secrétaire général, la semaine dernière, ici au siège, il y a eu une délégation du Parlement ukrainien indiquant que l'Ukraine avait besoin d'une coopération approfondie et élargie avec l'OTAN, notamment dans le cadre d'un programme de partenariat renforcé ou de coopération renforcée. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Et est-ce que c'est un point qui sera inscrit à l'ordre du jour de la Commission OTAN-Ukraine? Par ailleurs, quels sont les points que vous allez aborder lors de cette réunion de mercredi? Réponse. Nous sommes en train de renforcer notre coopération avec l'Ukraine. En effet, nous nous sommes mis d'accord sur un paquet très complet où il y a bon nombre de mesures différentes et d'activités diverses et variées pour renforcer le soutien tant politique que pratique vis-à-vis de l'Ukraine. Il va y avoir une réunion de la Commission OTAN-Ukraine mercredi et le ministre des Affaires étrangères, M. Kim Kin, va faire le point sur la situation sécuritaire, sur les défis sécuritaires à relever. Il va également parler des efforts en matière de réforme Et je pense que les alliés insisteront sur l'importance de la réforme, des réformes en Ukraine. En effet, il faut moderniser les institutions gouvernementales de manière générale, et s'agissant de l'OTAN, c'est particulièrement important. S'agissant des institutions de défense, ça va être essentiel pour l'Ukraine. Il faudra également lutter contre la corruption. Et le soutien de l'OTAN à l'Ukraine passe par cette réforme qui doit permettre aux Ukrainiens de renforcer leurs propres institutions. Il s'agira donc de renforcer ces institutions de sécurité et de défense. Alors, il y a différents fonds d'affectation spéciale qui travaillent sur différents thèmes, le domaine cyber, commandement et contrôle, la réforme. Mais au-delà de ces fonds et de cette présence de l'OTAN à Kiev et en Ukraine, nous invitons également, nous exhortons les membres de l'Alliance à soutenir directement l'Ukraine sur base bilatérale. Et d'ailleurs, plusieurs membres de l'Alliance fournissent un tel soutien, y compris un soutien qui prend la forme d'entraînement. Donc nous allons continuer à soutenir, tant politiquement que dans la pratique, l'Ukraine, et nous allons continuer d'insister sur l'importance de la pleine mise en œuvre des accords de Minsk. D'autre part, nous sommes très préoccupés par le nombre de violations de cessez-le-feu associées à l'accord de Minsk, y compris avec toutes ces armes lourdes qu'il est impossible de suivre. Et on voit que certaines de ces armes lourdes ont été utilisées en contradiction avec le cessez-le-feu. Monsieur le secrétaire général, j'aurais une question au sujet de la Turquie. Monsieur Erdogan a indiqué qu'il voulait se rapprocher de la Chine et de la Russie plutôt que de l'Europe. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 110 000 personnes qui ont soit été arrêtées, soit été licenciées à la suite du coup d'État ou de la tentative de coup d'État. Et récemment, on voit de plus en plus d'articles faisant état des officiers turcs de l'OTAN qui sont rappelés et leur avenir est très incertain. Dans certains cas, on a des demandes d'asile, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces questions? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez les choses et les répercussions que ceci peut avoir par rapport aux valeurs traditionnelles de l'OTAN? Réponse. La Turquie est un allié essentiel, et ce, pour plusieurs raisons. Il y a notamment l'emplacement géographique stratégique de ce pays, à proximité immédiate de l'Irak et de la Syrie, proximité également de la Russie et de l'Ukraine, au nord de la mer Noire. Par ailleurs, la Turquie héberge environ 3 millions de réfugiés. Donc la Turquie est un pays très important, que ce soit par rapport à la réponse que l'OTAN peut apporter à la Russie, ou alors par rapport à la manière de gérer la crise des réfugiés et des migrants. Et cela vaut également pour la lutte que l'on peut mener contre Daesh. Donc par rapport à cela, la Turquie est un pays important pour l'OTAN et pour l'Europe à l'heure de faire face à différents types de menaces et différents types de défis sécuritaires. Pour ma part, je me suis rendu plusieurs fois en Turquie, y compris depuis la tentative de coup d'État. Et il faut se souvenir que la Turquie a été la victime de bon nombre d'attentats terroristes, mais la Turquie a également donc fait face à une tentative de coup d'État. Et au cours de cette tentative, plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort. Et je peux vous dire que ça a été très impressionnant de se rendre au Parlement turc à Ankara. J'ai pu voir les dégâts provoqués par des bombes larguées par des F-16, qui ont été larguées sur le Parlement pendant la nuit de la tentative de coup d'État, alors même que des parlementaires se trouvaient dans le Parlement. Donc, bien entendu, la Turquie a le droit d'engager des poursuites contre ceux qui ont participé à cette tentative de coup d'État. Alors, il est essentiel que ceci se fasse conformément à l'état de droit. Voilà qui est important pour l'OTAN, notamment parce que l'état de droit est une des valeurs fondamentales de l'OTAN. Par ailleurs, Je me félicite des contacts établis entre le Conseil de l'Europe et la Turquie sur ces points, sur ces différentes questions. Nous avons en effet parlé de l'importance de l'état de droit, de ce contact entre l'UE et la Turquie lors de ma visite à Ankara. Et puis récemment, j'étais à Istanbul et là aussi, cette question a été soulevée lors de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. On a parlé de l'importance de la démocratie et de l'état de droit à la suite de cette tentative de coup d'État. Ensuite, s'agissant des officiers turcs, je suis en mesure de confirmer qu'un certain nombre d'officiers turcs ont demandé le droit d'asile dans certains pays membres de l'OTAN. Il convient de garder en tête que c'est au pays de évaluer et de statuer sur ces demandes. Donc ce n'est pas une décision qui relève de l'OTAN, c'est une décision qui sera prise par les différents pays où des officiers turcs ont pu demander le droit d'asile.
Question Kuwait News Agency. Y aura-t-il une discussion sur des initiatives éventuelles pour mettre un terme aux bombardements qui ont lieu en Syrie à Alep, Réponse du secrétaire général. Nous avons pu voir l'immense souffrance humaine à Alep. Nous avons vu que les bombardements aériens ont repris. Nous avons pu voir également que les infrastructures civiles dont fait partie l'aide humanitaire ainsi que les hôpitaux ont été attaqués. Et cela ne fait que souligner l'importance essentielle d'un effort continu pour tenter de trouver une solution politique à cette crise. Ce n'est pas facile. Il y a eu beaucoup de tentatives à ce sujet. Et malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à établir la paix en Syrie et nous ne sommes pas parvenus à un cessez-le-feu. Mais l'OTAN va poursuivre l'appui qu'elle apporte à ces tentatives de trouver une solution politique en Syrie. Et la première étape consistera à établir un cessez-le-feu et à établir un accès pour l'aide humanitaire à Alep et dans les autres villes de Syrie, où de nombreuses personnes souffrent actuellement de bombardements. L'OTAN n'est pas présente en Syrie. Ce que l'OTAN fait, c'est que nous fournissons un soutien pour la coalition qui lutte contre l'État islamique. Nous allons continuer de fournir ce soutien à la coalition internationale et nous allons continuer de fournir notre soutien à la Turquie, qui est une alliée de l'OTAN, qui partage une frontière avec la Syrie et qui est très touchée par les violences liées au combat et par les flux de migrants et de réfugiés qui contribuent à l'instabilité et à la violence en Syrie. Question, agence de presse russe. Monsieur le secrétaire général, y aura-t-il une réunion du Conseil OTAN-Russie avant la fin de l'année? Et d'après les Russes, visiblement, l'OTAN aurait rejeté cette proposition d'organiser des pourparlers à propos des modalités militaires concernant les vols au-dessus de la mer Baltique. Si il n'y a pas de réunion du Conseil OTAN-Russie prévue, quelles autres modalités pourrait-on envisager dans le cadre des mesures d'atténuation des risques que vous avez évoquées? Réponse du secrétaire général. Nous poursuivons nos efforts pour établir une relation plus constructive avec la Russie et nous pensons fermement que, à une époque où les tensions sont très exacerbées, eh bien, il est important d'avoir un dialogue ouvert et à ce titre, nous continuons à adopter notre approche double avec une défense forte d'un côté qui est associée d'un autre côté à un dialogue et à une communication politique ouverte avec la Russie. Nous avons organisé deux réunions du Conseil OTAN-Russie jusqu'à présent cette année. Nous étudions avec nos homologues russes la possibilité d'organiser une réunion dans le futur du Conseil OTAN-Russie. Et nous avons commencé à examiner les thèmes que nous pourrions aborder lors d'une telle réunion. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le Conseil OTAN Russie, bien évidemment, et nous continuerons d'évoquer la transparence et les mesures d'atténuation des risques, puisque au milieu de ces tensions exacerbées, il est capital d'établir de la transparence et de mettre des mécanismes en place pour éviter des incidents, des accidents. Par exemple, cet aéronef russe qui a été abattu au-dessus de la Turquie. Nous voulons éviter que de tels incidents se produisent de nouveau dans le futur et nous voulons surtout éviter que les choses échappent à notre contrôle. Nous sommes en pourparlers avec la Russie en ce qui concerne les vols au-dessus de la Baltique et j'aimerais souligner que la sûreté aérienne, il ne s'agit pas simplement de transpondeurs et de mesures techniques, c'est aussi une question de comportement responsable et l'une des raisons pour lesquelles nous étudions la possibilité d'organiser de nouvelles réunions du Conseil OTAN Russie, c'est précisément pour faire avancer ce dialogue avec la Russie sur l'atténuation des risques et sur la transparence en ce qui concerne les activités militaires. Question. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Lorsque nous avons posé la question de la situation humanitaire en Syrie, vous avez dit que le Conseil de l'Europe étudiait la question et que la Turquie est un allié de poids. Mais puisque la Turquie est un allié de poids, n'êtes-vous pas inquiet de la stabilité du pays? Je crois qu'il ne... Il ne reste plus que sept officiers en place dans le cadre de ce problème. Et puis le président Erdogan a une attitude particulière par rapport à la Russie et à la Chine. Ne vous inquiétez-vous pas du fait que cela représente un problème pour le futur, que la Turquie se rapproche de la Russie? La question de l'état de droit, de la démocratie, j'en ai parlé lors de ma dernière visite en Turquie. Et cette fois-ci, nous nous sommes rencontrés à Istanbul à propos lors de la réunion de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et au cours de cette réunion, la question de l'état de droit, de la démocratie a été évoquée. Et il s'agit là de questions que nous évoquons régulièrement avec nos homologues turcs. Et je me suis entretenu avec le président Erdogan à ce sujet, ainsi qu'avec d'autres dirigeants de la classe politique en Turquie. Mais en plus de cela, en plus de ce dialogue, je dois dire que le Conseil de l'Europe a lui aussi établi un contact avec la Turquie parce que le Conseil de l'Europe est chargé de la Convention sur les droits de l'homme et celui-ci dispose de mécanismes pour pouvoir gérer précisément les questions liées à la mise en œuvre de cette convention. Je pense par conséquent que le travail du Conseil de l'Europe est capital, mais évidemment, celui-ci ne remplace pas le dialogue direct dont nous jouissons à cet égard. Et nous avons pu voir cela lors de la réunion de la NPA à Istanbul, réunion qui a eu lieu il y a deux semaines de cela et au cours de laquelle ces questions ont été évoquées. Puis, je crois qu'il faut comprendre que la Turquie a exprimé à de maintes reprises, et très récemment, au cours de ma réunion avec le président Erdogan, par son intermédiaire, que la Turquie va continuer de s'engager envers l'OTAN et va continuer à contribuer aux opérations et missions de l'OTAN, et ce, de manière très différente, en Afghanistan notamment. Puis la Turquie nous aide également à gérer la situation dans la mer Noire. C'est quelque chose que nous avons soulevé avec le président Erdogan lors de ma visite. Et bien entendu, la Turquie contribue aux efforts et à la coalition qui lutte contre l'État islamique. Le fait que la Turquie se livre un dialogue avec la Russie ne va pas à l'encontre du fait que la Turquie est un allié très important de l'OTAN. Pour l'OTAN, d'ailleurs, cela fait partie de notre approche envers la Russie. Nous voulons établir un dialogue. Et je me rappelle qu'après que l'aéronef russe ait été abattu au-dessus de la Turquie, le message que j'ai communiqué, c'est que nous devons établir un contact direct entre Ankara et Moscou. Et je salue le fait que Moscou et Ankara se livrent effectivement à ce dialogue. Je pense que cela s'inscrit dans le message que souhaite communiquer l'OTAN. Il faut établir ce dialogue avec la Russie pour ne pas isoler cette dernière. En ce qui concerne les officiers que vous avez évoqués dans votre question, il faut se souvenir qu'il appartient à chaque pays de décider qui on envoie pour occuper les postes de commandement au sein de la structure de l'OTAN. Il y a eu des officiers qui ont quitté leur poste, mais au cours de ma visite à Istanbul, on a dit très clairement que ces officiers seraient remplacés et pour ces officiers qui ont demandé l'asile, ce n'est pas une décision qui incombe à l'OTAN, mais une décision qui incombe aux pays auprès desquels cette demande a été formulée. Question. Monsieur le secrétaire général, pour ce qui est de la réunion éventuelle du Conseil OTAN-Russie, quelle est la mesure des désaccords, quelle est l'importance de ces désaccords en ce qui concerne les retards accumulés dans l'organisation de cette réunion? Et les thèmes que vous abordez se limitent-ils à la sûreté aérienne, à la transparence, ou est-il essentiel pour l'Alliance de parler de l'Ukraine lors de ces réunions du Conseil OTAN-Russie? Réponse du secrétaire général. Comme nous l'avons décidé à Varsovie lors du sommet, nous avons décidé de nous livrer à un dialogue précis, utile avec la Russie. Nous avons également déclaré que l'Ukraine était un thème essentiel qui était au cœur de ce dialogue, et c'est toujours le cas. L'Ukraine fait partie intégrante de notre dialogue avec la Russie. L'une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est essentiel d'établir un dialogue avec la Russie, c'était à la fois pour soulever ces questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, et d'autres choses encore. Nous avons évoqué l'Ukraine lors de nos deux dernières réunions. Nous avons parlé de diverses autres choses, l'atténuation des risques, la transparence. Mais encore une fois, nous avons également soulevé la question de l'Ukraine. Parce que je pense que ce type de dialogue, ça représente une opportunité pour échanger des opinions sur des questions pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Pour ce qui est du travail sur la prochaine réunion éventuelle du Conseil OTAN-Russie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux simplement confirmer que nous sommes en contact avec nos homologues russes et que nous examinons la possibilité d'organiser une réunion. Nous ne savons pas encore à quelle date. Et nous parlons également des thèmes qui seront évoqués lors de cette éventuelle réunion. Monsieur le secrétaire général, question. Revenons à la Turquie. Lorsque vous avez rencontré Monsieur Erdogan à Istanbul, avez-vous reçu de sa part une assurance quant à ces 7 officiers qui ont dû quitter leur poste? Vont-ils être poursuivis en justice? Vont-ils recevoir un procès juste? Réponse du secrétaire général. Les dirigeants turcs ont dit à plusieurs reprises qu'ils respecteraient l'état de droit. J'ai dit très clairement que l'état de droit est capital pour moi, personnellement. J'y attache une importance capitale et c'est très important pour l'OTAN, puisque l'une des valeurs que préconise l'OTAN, c'est justement la primauté de l'état de droit. Je salue également, en marge de ce dialogue direct que nous avons établi avec la Turquie à ce sujet, j'ai rendu visite aux dirigeants turcs à la suite de la tentative du coup d'État. Il y a eu également des contacts avec le Conseil de l'Europe et, comme je le disais, il est très important de respecter l'état de droit et ce respect s'applique également aux officiers. C'est un principe qui s'applique à toutes les personnes, y compris les personnes qui seront éventuellement poursuivies en justice après cette tentative de coup d'État.
Thank you.